Mark Twain, par téléphone, fantaisie américaine. On touchait à la fin d'une froide matinée d'hiver. La ville d'Eastport, dans l'état du Maine, était ensevelie sous une neige épaisse nouvellement tombée. Pas le moindre mouvement dans les rues, aussi loin que s'étendait le regard, rien que la solitude morne et silencieuse. Les trottoirs s'étaient transformés en fossés profonds, bordés de murs de neige de chaque côté. Et le seul bruit qui frappait de loin en loin l'oreille était celui d'une pelle de bois s'efforçant de pratiquer un déblaiement. Mais il faisait un froid à ne pouvoir rester longtemps dehors, même pour ceux qui étaient chargés d'enlever la neige. Bientôt le ciel s'assombrit, le vent se leva, et commença à souffler en ravales capricieuses de la plus respectable intensité. Et c'était plaisir que de le voir chasser des nuages de neige en haut, en avant, un peu partout. Tantôt il s'amusait à façonner d'immenses amas à la façon des tounoulis, tantôt il s'amusait à enlever d'abord comme un peu de poussière à l'arête de ses tounoulis pour les effondrer, les éparpiller ensuite. Tantôt il faisait la place nette, et le terrain paraissait aussi propre que si on l'avait délayé. Oh, comme le vent plaisantait de tout cela! Mais toujours la neige s'accumulait sur les trottoirs, et cela n'était pas une plaisanterie. Dans un élégant et confortable petit salon, vêtu d'une robe de chambre d'un bleu ravissant, au revers de satin cramoisi, Alonzo Fitzclarence faisait la sieste. Devant lui, les restes d'un déjeuner. Les assiettes et les plats en porcelaine fine s'harmonisaient admirablement avec le mobilier de la chambre. Le feu pétillait clair et joyeux dans la cheminée. Un coup de vent plus violent ébranla les vitres que fouettaient les bourrasques avec un son mouillé, si l'on peut s'exprimer ainsi. Le beau jeune homme murmura « Ben voilà qui est catégorique. Impossible de sortir aujourd'hui. Il faut se résigner. Mais que faire pour avoir de la société? Voyons, bon, il y a bien ma mère et tante Suzanne, excellente personne avec qui je pourrais causer par le téléphone. Ben, cela ne me change pas assez. » Il jeta un regard à sa jolie pendule française. « Cette pendule va mal. Cette pendule ne sait presque jamais l'heure qu'il est. » « Alfred. »« Alfred !» Point de réponse. « Alfred, excellent serviteur, mais d'un service presque aussi incertain que la pendule. » Alonzo pressa le bouton d'une sonnerie électrique, attendit un moment, pressa de nouveau le bouton, attendit quelques instants encore. Bon, la pâte de rubatterie est dérangée, sans doute. Il faut pourtant que je sache l'heure à tout prix. Il s'avança vers un porte-voix placé dans le mur, siffla et appela. Mère ! À deux reprises, inutile. Ah, sans doute il y a quelque chose là non plus qui ne fonctionne pas. Je ne puis faire bouger personne en bas, c'est évident. Alors il s'assit à un pupitre de bois rose et parla dans le téléphone. Tante Suzanne, d'une voix basse et agréable, répondit. Ah, est-ce vous, mon neveu ? « Oui, oh, je suis trop paresseux d'être confortablement installé pour descendre vers ma mère. Vous me voyez dans un cruel embarras et personne pour me venir en aide. »«
Ciel, que dites-vous, qu'y a-t-il ? » ?»«
Oh, quelque chose de très grave, je vous assure. »«
Oh, ne me tenez pas ainsi en suspens, mon cher. Qu'est-ce donc ?»«
Bien, je voudrais savoir l'heure exactement. »
« Abominable garnement! Oh, quelle frayeur vous m'avez faite! Est-ce tout ?»«
À tout, sur mon honneur. Reprenez vos esprits. Dites-moi l'heure et recevez ma bénédiction. »
Et il est 9 h 05 ici. Mais pour ma peine, je demande point de paiement. Les gardes et votre bénédiction. Merci, cela ne m'aurait pas appauvri, petite tante. Et cela ne vous aurait pas assez enrichi pour que vous eussiez pu vivre sans autre ressource. Il se leva en murmurant 9 h 05 minutes et regardant la pendule. Ah, dit-il, oh, tu vas mieux que d'habitude, toi, tu ne te trompes que de 34 minutes. Après avoir fait un calcul mental, il tourna les aiguilles de la pendule en avant jusqu'à ce qu'elle marquasse 1 h moins 25 minutes. Il s'installa de nouveau au téléphone et appela. Tante Suzanne, oui, mon neveu, avez-vous déjeuné? Oui, il y a 1 heure. Êtes-vous occupé? Non, excepté à coudre, pourquoi? Avez-vous des visites? Non, mais j'en attends à 9 h 30. Ah, je voudrais bien pouvoir dire autant. Je suis tout seul et voudrais parler à quelqu'un. Ben, très bien, parlez-moi. Mais non, c'est qu'il s'agit d'un sujet très intime. Mais ne craignez rien, parlez. Il n'y a personne ici que moi. Bon, je ne sais trop si je dois m'aventurer ou non, mais quoi? Vous ne vous arrêtez pas. Vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi. Alors, vous le savez. Ben, je le sais, ma tante, mais c'est si sérieux. Cela me touche si profondément, moi et toute la famille. Alonso, dites-le-moi, dites-moi tout. Je n'en soufflerai jamais un mot. Tante, si j'osais, je vous en prie, assez, fiez-vous à moi. Vous savez si je vous aime. Qu'est-ce? Quel temps fait-il dans votre pays? Mais la peste soit du temps. Je ne comprends pas que vous ayez le cœur de vous jouer ainsi de moi. Là, là, chère petite tante, je suis fâché, sur mon honneur très fâché. Je ne le ferai plus, me pardonnez-vous? Oui, puisque vous avez l'air de vous repentir sincèrement, je vous pardonne, quoique sachant que je ne devrais pas le faire, car vous vous moquerez de moi de nouveau à la première occasion. Non, certes. Mais quel temps! Oh, je vous assure qu'il est de toute nécessité de soutenir son entrain par tous les moyens possibles. Ici, ma tante, il neige, il vente, il fait un froid cruel. Quelle sorte de temps avez-vous dans votre pays? Un temps chaud, pluvieux, mélancolique. Aussi loin que je puis voir, je m'aperçois dans la rue aucun être humain. Oh, mais sur les trottoirs, une double ou triple rangée de parapluies ruisselant par toutes leurs baleines. J'ai du feu dans ma cheminée pour m'égayer, mais j'étoufferais si je ne tenais les fenêtres ouvertes. Le souffle embaumé de décembre m'arrive tout chargé du parfum de fleurs moqueuses qui se rient de nous et qui s'épanouissent plus fraîches et plus vigoureuses à mesure que tombe cette pluie qui n'apporte aux hommes que tristesse et abattement. Alonso ouvrit la bouche pour s'écrier: Bravo, petite tante! Oh, vous devriez imprimer cela et le faire encadrer. Mais il s'arrêta soudain en entendant sa tante converser avec quelqu'un. Il s'approcha de la fenêtre et contempla le froid paysage d'hiver. Plus furieuse que jamais, la tempête chassait des tourbillons de neige. Les contrevents battaient et se fermaient avec violence. Un chien abandonné, la tête basse, la queue entre les jambes, frôlait les murs, cherchant un abri et une protection. Alonso frissonna et dit avec un soupir: Oh, mieux vaut la boue, la pluie chaude et les fleurs qui se moquent des gens qu'un temps comme celui-ci. Il s'éloigna de la fenêtre, fit un pas, puis s'arrêta, l'oreille tendue, tandis que les notes douces d'un chant bien connu
lui arrivait par le fil du téléphone. Il resta immobile, la tête inconsciemment penchée en avant, comme s'il buvait la mélodie. Il y avait cependant une erreur dans l'exécution du chant. Mais il semblait à Alonso que ce défaut, qui consistait à clamer un demi-ton trop bas les 5 premières notes du refrain de la romance, prêtait à l'air un charme de plus. Aussi, quand le chant s'arrêta, notre héros respira profondément et s'écria « Jamais, non, jamais, je n'ai entendu chanter ainsi, in sweet bye-bye. » Il s'élança vers le téléphone et d'une voix basse et confidentielle. « Tante, qui donc cette divinité chanteuse ?»« C'est la compagne que j'attendais et qui, j'espère, passera ici un mois ou deux. Oh, je vais vous présenter l'un à l'autre. Miss, de grâce un moment, tante Suzanne. Vous prenez jamais le temps de la réflexion. » Il courut, il vola plutôt à sa chambre à coucher, et revint l'instant d'après dans une toilette très soignée. « Ma parole d'honneur, grommela-t-il, elle m'aurait présenté à cet ange en robe de chambre bleue à revers rouge. Oh, les femmes, n'ont point de cervelle !» Puis il ajouta, devant le téléphone, « Ben maintenant, petite tante, je suis à vos ordres. » Et il se mit à sourire et à saluer avec toute l'élégance et tout le décorum dont il était capable. « Très bien, Miss Rosanna El Sultan, permettez-moi de vous présenter mon neveu favori, M. Alonso Fitzclarence. Voilà qui est fait. Et comme vous êtes tous deux de braves jeunes gens que j'aime de tout mon cœur, je vous laisse converser ensemble pendant que je m'occupe de quelques détails de ménage. Asseyez-vous, Rosanna. Asseyez-vous, Alonso. Adieu, je ne serai pas absente longtemps. » Alonso, n'ayant cessé de saluer de sourire, il s'assit et murmura en lui-même « Oh, l'heureuse chance! Maintenant le vent peut souffler, la neige tourbillonner, le ciel montrer de la pure humeur, cela m'est bien égal. » Chapitre 2. Pendant que les deux jeunes gens babillent et font connaissance, jetons un coup d'œil sur la charmante Miss Rosanna Ethelton. Elle était assise dans un délicieux boudoir, un boudoir qui devait être la création d'une femme au goût raffiné, à l'âme sensible et quelque peu romanesque. Auprès d'une chaise basse et confortable, on voyait une corbeille à ouvrage ornée de broderies. Il s'en échappait une profusion de rubans et de laine de toute espèce. Par terre gisaient pêle-mêle des lambeaux d'étoffe, quelques bobines, des ciseaux, tandis que sur le sofa en moelleuse étoffe des las Indes se prélassait le chat de la maison. Dans un bagundo, un chevalet supportait une peinture inachevée. Des livres partout. Les sermons de Robertson, les œuvres de Tennyson, de Moody et Sankey, d'Hawthorne, des livres de cuisine, des livres de prière, des livres d'échantillons, et cela va sans dire, des livres traitant l'odieuse question des potiches de tous les pays. Un piano disparaissait sous des montagnes de cahiers de musique, comme les murs disparaissaient sous les gravures et les tableaux. C'était une véritable inondation d'objets d'art. Marbre, bronze, statuettes, bibelots de toutes sortes, spécimens de porcelaines rares et précieuses, mis en évidence sur des consoles. Le bay window s'ouvrait sur un jardin resplendissant de fleurs exotiques, vraie féerie pour la vue et l'odorat. Mais Miss Rosanna était sans contredit ce qu'il y avait dans cette maison de plus exquis, de plus délicat, de plus charmant à contempler.
Qui saurait dépeindre ce profil grec, ces traits si purs, ce teint si blanc, légèrement nuancé de rose, ces grands yeux bleus si doux, frangés de longs cils recourbés, et cette abondance de cheveux d'or.
Ajoutez une expression d'une candeur infinie et une tournure de reine, n'excluant cependant ni la grâce ni l'abandon dans les mouvements. Dans sa toilette, d'une grande simplicité, elle apparaissait rayonnante de beauté. Que devait-elle être en parure de bal? Tandis que nous nous attardons à l'admirer, elle avait bavardé avec Alonso. Les minutes s'écoulaient et elle causait toujours. Soudain, elle leva les yeux et aperçut l'heure à la pendule. Une rougeur couvrit ses joues et elle se hâta de crier dans le téléphone.
« Adieu, je vous quitte, monsieur Fitzclarence. Il faut que je m'en aille à présent. »
Elle se leva de sa chaise avec tant de précipitation qu'elle entendit à peine le jeune homme qui lui disait « Adieu !» Debout, en proie à la plus gracieuse confusion, elle regardait de nouveau la pendule accusatrice.
11h05, en vérité, presque 2 heures passées à causer, et ces 2 heures m'ont semblé 20 minutes. Oh, que va-t-il penser de moi?
Au même moment, Alonso, ébahi, contemplait la pendule et se disait « 3h-25, près de 2 heures. Oh, le diable m'emporte si j'aurais cru qu'il se fût écoulé plus de 2 minutes. Oh, il est impossible que cette pendule ne radote pas de nouveau. »
« Mais Miss Sultan, un instant, je vous prie, êtes-vous toujours là ?»« Oui, mais dites, vite, je vais partir. »«
Seriez-vous assez aimable pour me dire l'heure qu'il est ?» La jeune fille sentit la rougeur remonter à sa joue.
« Fi, le vilain cruel de me demander cela, murmura-t-elle. » Puis elle ajouta à haute voix, avec un ton d'insouciance parfaitement joué,
« 9h05. »«
Merci. Et vous êtes vraiment obligé de partir à présent ?»«
Oui. Oh, j'en suis fâché. » Point de réponse.
« Mr. Sultan. »
Point de réponse.
« Mr. Sultan. » « Eh bien, vous êtes là, n'est-ce pas ?»« Oui, mais hâtez-vous, je vous prie. Que voulez-vous dire ?»
Eh bien, rien de particulier. Si vous saviez comme je me trouve seul ici, ce serait demander beaucoup. Oh, c'est vrai, mais craindriez-vous de causer de nouveau avec moi, bientôt, si cela ne vous ennuie pas trop?
Ben, je ne sais pas, j'y réfléchirai, j'essaierai.
Merci, Miss Ethelton.
Ah, elle est partie.
Et me voilà de nouveau dans la tourmente de neige, les ténèbres et l'ouragan. Elle est partie. Elle a dit adieu et non pas bonjour. Après tout, la pendule avait bien, et ces 2 heures ont passé comme un éclair. Chose étrange et charmante. Il y a 2 petites heures, j'étais un homme libre d'Airport, état du Maine, et maintenant, mon cœur est à San Francisco.
À peu près au même moment, Rosanna Ethelton, assis près de la fenêtre dans sa chambre, un livre à la main, promenait un regard distrait sur le port de San Francisco et se disait en elle-même « Qu'il est différent de ce pauvre Burley, dont la tête est vide d'idées et qui a un si pauvre talent de mimique. »
Chapitre 3. 4 semaines plus tard, M. Sidney Algernon Burley avait invité une joyeuse société d'amis à déjeuner dans un somptueux salon à l'hôtel de Telegraph Hill, à San Francisco. Le but de la réunion était d'entendre M. Sidney Algernon Burley exhiber ses talents, et en particulier d'applaudir M. Sidney Algernon dans ses imitations de certains acteurs populaires et de certains littérateurs de San Francisco et autres lieux avoisinants. Monsieur Sidney Algernon Hurley possédait une belle prestance, un habit fort élégant et un au moins élégant monocle dans l'œil. Il paraissait fort gai et cependant il tenait ses yeux fixés sur la porte avec une impatience mal dissimulée. Un laquais apparut et fit à voix basse une communication à la maîtresse de l'hôtel. Celle-ci secoua la tête d'une manière qui eut l'air d'impressionner vivement M. Burley Sidney Algerton, et son entrain diminua peu à peu et son attitude indiqua un découragement croissant. Les invités se retirèrent les uns après les autres, et M. Sidney Algernon Burley se trouva seul avec la maîtresse de l'hôtel. « Il n'y a plus de doute possible, lui dit-il. Elle m'évite. Elle s'excuse toujours. Ah, si je pouvais la voir, lui parler seulement un instant. Mais cette perpétuelle indécision... Oh, peut-être, monsieur Burley, est-ce une malencontreuse coïncidence qui donne l'illusion qu'elle veut vous éviter. Montez au petit salon et attendez-moi. Je vais expédier une affaire de ménage qui me préoccupe. Puis je me rendrai dans sa chambre. Sans doute elle se laissera persuader de vous voir. » Monsieur Burley monta avec l'intention d'aller au petit salon. Mais comme il passait devant le salon particulier de Tante Suzanne, dont la porte était entr'ouverte, il entendit un rire joyeux. Ah, ce rire, il le connaissait bien, de sorte que, sans frapper et sans se faire annoncer, il entra plein d'espoir. Mais avant qu'il eût pu proférer un seul mot ou ébaucher un mouvement pour révéler sa présence, il entendit des choses qui jetèrent le trouble dans son âme et firent frissonner tout son être. Il entendit une voix dire « Chérie, votre photographie est arrivée !» Et Rosanna Iselton répondit « Et la vôtre aussi, très chère !» Il vit sa taille s'incliner doucement et l'entendit embrasser quelque chose à plusieurs reprises. Son âme bouillonnait au-dedans de lui. La conversation qui lui brisait le cœur continua. « Oh, Rosanna, je savais que vous deviez être belle, mais ceci est éblouissant, ceci est aveuglant, ceci est enivrant. Alors, oh, quelle joie de vous entendre dire ces choses. « Oh, je sais trop que cela n'est pas, mais quelle reconnaissance que vous le pensiez. Et pour moi, je sentais que vous deviez avoir une noble figure, mais la grâce et la majesté de la réalité laissent bien loin derrière elle les rêves de mon imagination. » Burley entendit de nouveau comme un déluge de baisers. « Merci, ma Rosanna. Oh, la photographie me flatte à coup sûr, mais qu'importe tout cela, mon amour. Je suis si heureux, Rosanna. Oh, Alonso, nul avant moi n'a su ce qu'était l'amour. Et personne après moi ne saura ce qu'est le bonheur. Je me promène dans un rêve étoilé, tout un monde infini d'enchantement et d'extase s'entr'ouvre à mes regards. Oh, ma Rosanna, car vous êtes à moi, n'est-ce pas? Entièrement, oui, entièrement, Alonso. Dès à présent et toujours, tout le long du jour et à travers les rêves de ma nuit, j'entends comme une musique qui me redit à mon oreille « Alonso Fitzclarence, Alonso Fitzclarence, it's part état d'humain. » Malédiction, bah, au moins j'ai son adresse, grogna intérieurement Burley. Et il s'élança de la place où il était. Chapitre 4. Précisément, derrière Alonso, se tenait sa mère, dont la figure reflétait la plus complète stupéfaction. Elle était si bien enveloppée de la tête aux pieds dans ses fourrures que l'on ne voyait sa personne que ses yeux et son nez. Vivante allégorie de l'hiver, elle était toute poudrée de neige. Derrière Rosanna, qui ne s'en doutait pas, se tenait Anne-Suzanne comme une image de l'étonnement, vivante allégorie de l'été, car elle était légèrement habillée et agitait avec vigueur son éventail pour rafraîchir quelque peu son visage. Ces femmes avaient toutes deux des larmes de joie dans les yeux. « Oh !» s'écria Madame Fitzclarence, « voilà qui explique, Alonso, pourquoi personne n'a pu vous faire sortir de votre chambre depuis 6 semaines ?»« Oh oh !» s'exclame Tante Suzanne, « voilà qui explique, Rosanna, pourquoi depuis 6 semaines vous vous êtes faite ermite ?» En un instant, les deux jeunes gens se redressèrent, étourdis comme des voleurs pris en flagrant délit. Soyez béni, mon fils, je suis heureuse de votre bonheur. Venez dans les bras de votre mère. Soyez béni, Rosanna, pour l'amour de mon cher neveu. Venez dans mes bras. Et il y eut parallèlement à Telegraph Hill et à Eastport Square des effusions de tendresse et de bien douces larmes. Dans ces deux endroits, les serviteurs de la maison furent appelés. À l'un des endroits, cet ordre fut donné. « Apportez-moi une limonade bouillante !» À l'autre endroit. « Éteignez le feu. Apportez-moi 2 éventails en feuilles de palmier et de l'eau à la glace. » Et les deux jeunes gens furent remplacés par les 2 vieilles dames, qui s'assirent à leur tour au téléphone, pour s'entretenir de leur douce surprise et faire les plans du mariage. Quelques minutes auparavant, M. Burley s'était élancé hors de la maison du Telegraph Hill sans prendre congé de personne. Il murmurait entre ses dents, imitant sans s'en douter un mélodrame populaire, « Oh, jamais, mais elle ne l'épousera jamais, je le jure !» Avant que la nature ait dépouillé son manteau d'hermine pour revêtir sa parure d'émeraude, elle sera à moi. Oui, elle sera à moi. Chapitre 5. 2 semaines après. Toutes les 3 ou 4 heures, pendant 3 ou 4 jours consécutifs, un clergyman de l'église épiscopale, correct et très dévot, un monocle dans l'œil, rendait visite à Alonso. À en croire sa carte de visite, il s'appelait le révérend Melton Hargrave de Cincinnati. Il s'était, disait-il, retiré du ministère pour cause de santé. S'il avait dit que c'était pour cause de mauvaise santé, il aurait menti à coup sûr, à en juger par sa robuste apparence et sa solide charpente. Inventeur d'une amélioration dans les téléphones, il espérait gagner sa vie en exploitant son brevet. « Alors qu'il est, disait-il, un homme peut avec son propre téléphone s'emparer d'un fil qu'il transmet d'un estat dans l'autre la musique d'un concert et la détourner à son profit. Mon invention s'appréciera désormais ce délit. » « Eh bien, répondit Alonso, si ce vol musical opéré en route ne fait de tort à personne, à quoi bon s'en embarrasser ?»« Mais supposez, reprit le révérend, qu'au lieu d'être de la musique qui passe sur le fil et qui fut détournée ainsi, supposez que ce fussent des paroles d'amour de la nature la plus sacrée et la plus intime. » Alonso frémit de la tête aux pieds. « Monsieur, mais votre invention est inestimable. Oh, mais il me la faut à tout prix. Mais cette invention tant vantée se perdit sans doute sur le chemin de Cincinnati, car Alonso n'en entendit plus parler. Son impatience ne connaissait pas de bornes. La pensée que les 12 paroles de Rosanna pouvaient lui être volées en route ne lui laissait point de repos. Le révérend venait souvent se lamenter auprès de lui de longueurs apportées à l'obtention de son brevet. Mais cela consolait fort peu notre héros. Un matin, le révérend monta l'escalier et frappa à la porte d'Alonso. Point de réponse. Il entra, jeta un coup d'œil inquisiteur autour de lui, ferma doucement la porte et se précipita au téléphone. Les sons doux et éloignés du « Sweet by Ben by » arrivèrent à son oreille le long du fil. La chanteuse en était aux 5 notes du refrain quand le révérend l'interrompit en imitant exactement la voix d'Alonso avec un léger accent d'impatience. « Mon amour » plaît-il. « Non, je vous en prie, ne chantez plus seul ça cette semaine. Essayez quelque chose de plus nouveau. » Le pas agile d'un homme au cœur léger se fit entendre dans l'escalier, et le révérend, avec un sourire diabolique, chercha précipitamment un refuge derrière les plis des rideaux de velours. Alonso entra et s'avança vers le téléphone. « Rosanna, ma chérie, chantons quelque chose ensemble. »« Quelque chose de plus nouveau ?» demanda-t-elle avec une amertume railleuse. « Oui, si vous le préférez, eh bien, chantez vous-même. » Cette boutade étonna et blessa le jeune homme. « Rosanna, dit-il, mais ceci ne vous ressemble pas. Je suppose que cela me ressemble autant que votre discours de tout à l'heure vous ressemblait, monsieur FitzClarence. »« Monsieur FitzClarence, mais Rosanna, qu'y avait-il d'impoli dans mes paroles ?»« Bien sûr, j'avais mal compris. Je vous demande humblement pardon. Vous m'avez dit, ne chantez plus aujourd'hui. » « Ne plus chanter quoi ?»« La romance dont vous avez parlé. » « Comme vous avez de la peine à comprendre du premier coup. » « Mais je n'ai jamais parlé d'aucune romance. » « Oh, vous n'en avez pas parlé ?»« Mais non, en vérité. » « Mais je suis forcé de remarquer que vous en avez parlé. » « Et moi, je suis forcé de vous répéter que je n'en ai pas parlé. » « Est-ce une seconde impolitesse ? Cela suffit, monsieur. »« Ah non, je ne vous parlerai jamais, tout est fini entre nous. » Alors arriva par le téléphone un son étouffé de sanglots. Alors Zo se précipita. « Oh, Rosanna, retirez vos paroles. Il y a quelque terrible mystère là-dessous, quelque affreuse méprise. » « Je vous dis la vérité pleine et entière quand je vous assure n'avoir pas parlé de cette romance. Je voudrais vous blesser pour rien au monde. Rosanna, chère Rosanna, oh parlez-moi, je vous en supplie. » Il y eut une pause, puis Alonso entendit les sanglots s'éloigner et comprit que son interlocutrice avait abandonné le téléphone. Il se leva en soupirant et sortit de la chambre à la hâte en se disant « Oh, je m'en vais chercher ma mère. Dussé-je fouiller pour cela toutes les maisons de pauvres et les établissements de charité? Oh, je la trouverai, et elle persuadera Rosanna que je n'ai jamais eu l'intention de la blesser. » Une minute plus tard, le révérend se jetait sur le téléphone comme un tigre guettant sa proie. Il n'attendit pas longtemps. Une voix douce et tremblante de larmes disait « Cher Alonso, j'ai eu tort, oui, il est impossible que vous m'ayez dit une chose aussi cruelle. Il faut que quelqu'un ait imité votre voix, par malice ou par plaisanterie. » Le révérend répondit froidement avec le son de voix d'Alonso « Vous avez dit que tout soit fini entre nous et qu'il en soit ainsi. Je repousse votre repentir et le méprise. » Puis il partit, radieux de son diabolique triomphe, et disparut pour toujours, lui et ses inventions téléphoniques. 4 heures après, Alonso revint avec sa mère et ils se mirent en communication avec la maison de San Francisco. Mais ils n'obtinrent point de réponse. Ils attendirent longtemps, longtemps, auprès du téléphone muet. Enfin, au moment où le soleil se couchait à San Francisco et où il faisait nuit depuis 3 heures et demie à Eastport, la réponse arriva à l'appel sans cesse répété de « Hosanna, Hosanna !» Mais hélas, c'était la voix de tante Suzanne. « J'ai été dehors tout le jour, » disait la voix. « J'arrive seulement, je vais la chercher. » Ici, une attente de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, puis ces mots fatals prononcés d'une voix altérée. « Elle est partie avec son bagage. Elle a dit au domestique qu'elle allait chez des amis, mais voici le billet que j'ai trouvé sur la table de sa chambre. » Je suis parti, ne cherchez pas mes traces. Mon cœur est brisé, vous ne me verrez plus jamais. Dites-lui que je passerai toujours à lui quand je chanterai Goodbye and bye, mais sans y associer le souvenir des pénibles paroles qu'il a prononcées à ce propos. Alonso, Alonso, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-il arrivé? Mais Alonso resta sans voix. Blanc et froid comme la mort. Sa mère courut ouvrir la fenêtre pour que l'air extérieur ranimât le malheureux. Une carte tomba à terre des plis du rideau et elle lut « Monsieur Sidney Algernon Burley, San Francisco. » « Le misérable !» hurla FitzClarence. Il s'élança à la poursuite du faux révérend dans l'intention de le tuer. La carte expliquait tout, car nos deux jeunes gens s'étaient mutuellement avoués dans leur conversation leurs amourettes passées, dont sans plaisanter sur le compte des malheureux évincés, ainsi que cela se pratique toujours entre amoureux. Chapitre 6. Pendant les 2 mois qui suivirent, il se passa bien des choses. Hosanna, la pauvre orpheline, n'était point retournée chez sa grand-mère à Portland dans l'Oregon et ne lui avait écrit autre chose qu'un duplicata du billet trouvé dans la maison de Telegraph Hill. La personne qui lui avait donné asile avait sans doute promis de tenir secret ses faits et gestes, car tous les efforts tentés pour retrouver ses traces restèrent sans succès. Mais Alonso ne l'oubliait pas. Il se dit « Elle chantera notre douce romance quand elle sera triste et je la retrouverai. » Et prenant son sac de voyage et un téléphone portatif, il secoua sur sa ville natale la neige de ses pieds et se lança dans le vaste monde. Loin, bien loin, il s'en allait, errant de pays en pays. Parfois, les passants, stupéfaits, voyaient un homme, pâle et usé par les soucis, grimper sur le poteau télégraphique, rester perché mélancoliquement à ses hauteurs, l'oreille appliquée à une petite boîte, et bientôt il redescendait en soupirant et reprenait sa marche interrompue. Au commencement de son pèlerinage, il murmurait souvent « Ah, si je pouvais seulement entendre ce sweet bye-bye !» Mais vers la fin, il versait des pleurs d'angoisse et disait « Ah, que ne puis-je entendre quelque chose !» Ainsi s'écoulèrent 8 semaines, et à la fin, quelques personnes au cœur charitable s'emparèrent de lui et l'enfermèrent dans une maison de santé à New York. Il ne murmura pas, car sa force s'était épuisée, et avec sa force, toute son espérance. Le directeur de la maison de santé, plein de compassion, lui abandonna son salon et sa chambre, et le soigna avec le plus grand affectueux dévouement. Au bout d'une semaine, le patient put quitter son lit pour la première fois. Confortablement étendu sur un sofa, il écoutait la chanson plaintive des vents de mars et le son étouffé des pas dans la rue. Il était environ 6 heures. Chacun à New York rentrait chez soi. Un feu brillant flambait dans la cheminée. Une lampe égayait la chambre. Clarté et chaleur à l'intérieur, ténèbres et froid au dehors. Alonso sourit faiblement en songeant que son désespoir d'amour l'avait fait passer pour fou aux yeux du monde, quand un son doux et faible, si lointain que ce n'est plus que l'ombre d'un son, vint frapper son oreille. Les battements de son cœur s'arrêtèrent et il resta haletant. Le chant continuait. Lentement et sans s'en rendre compte, Alonso se soulevait sur son séant. « Mais c'est elle, c'est elle! Oh, les notes bien connues !» Il se traîna affolé vers l'angle d'où le son provenait, écarta un rideau et découvrit un téléphone. Il se pencha au-dessus de l'instrument et comme la dernière note s'éteignait, il poussa cette exclamation. « Enfin, grâce au ciel, enfin je vous ai retrouvé. Parlez-moi, Rosanna, chérie. Le cruel mystère est dévoilé. C'est ce coquin de Burleigh qui s'est permis d'imiter ma voix et de vous blesser par ses insolents discours. » Ici, une pause qui parut à Alonso longue comme un siècle. Puis ces mots arrivèrent d'un pays éloigné. « Oh, dites encore ces précieuses paroles, Alonso. » Mais elles sont l'impression de la vérité pure, et vous en aurez la preuve irréfutable. « Oh, Alonso, restez là, ne me laissez pas un instant que je sente votre présence. Dites-moi que vous ne me quitterez plus jamais. Oh, l'heure joyeuse et bénie. » Nous nous en souviendrons, Rosanna. Chaque année, au moment où sonnera cette heure bénie, nous la célébrerons avec des actions de grâce, et cela tant que nous vivrons. Dorénavant, à 6h04 du soir, ma Rosanna. À 12h23, voulez-vous dire? À propos, c'est vrai, ma Rosanna chérie, où êtes-vous? À Honolulu, aux îles Sandwich, et vous? Restez vers moi, ne vous éloignez pas un instant, je ne pourrais le supporter. Êtes-vous chez vous? Non, chérie, je suis à New York, malade et entre les mains d'un docteur. Un cri d'angoisse arriva bourdonnant aux oreilles d'Alonso. Non, ce n'était plus un cri, mais un vague bourdonnement semblable à celui d'un moustique, un cri qui a perdu toute sa force dans un voyage de 5000 miles. Alonso reprit à la hâte. « Donc calmez-vous, ce n'est rien. Déjà, je me sens mieux. Votre présence est un baume sans pareil, Rosanna. » « Est-ce vrai, Alonso? Oh, si vous saviez que vous m'avez fait peur. Mais continuez. Mais fixez l'heure jour de notre mariage, Rosanna. » Il y eut une courte pause, puis une voix mal assurée reprit. Je rougis, mais je rougis de bonheur. Voudriez-vous que ce fût bientôt? Cette nuit même, Rosanna. Plus de délai, que ce soit aujourd'hui, ce soir, à l'instant même. L'impatient. Je n'ai ici personne que mon bon vieil oncle, autrefois missionnaire, personne que lui et sa femme. Oh, que je voudrais que votre mère ou votre tante Suzanne. Notre mère et notre tante Suzanne, Rosanna.
Oui, certes, notre mère et notre tante Suzanne, puisque cela vous plaît, je voudrais tant qu'elles fussent présentes.
Je le voudrais aussi. Supposons que vous envoyiez un télégramme à tante Suzanne, combien de temps mettrait-elle à faire le voyage?
Le steamer quitte San Francisco après-demain. La traversée est de 8 jours, elle serait ici le 31 mars.
Alors, fixez le 1er avril. N'est-ce pas, chérie?
Oh, grand merci, pour qu'on dise que notre mariage est un poisson d'avril.
Et ne serions-nous pas les plus heureuses gens du monde, quoique mariés le 1er avril?
Eh bien, va pour le 1er avril.
Oh, joie! Fixez l'heure, Rosanna!
J'aime la gaieté du matin. Est-ce que 8 heures vous conviendrait?
Si 7 heures me conviendrait, mais ne sera-ce pas la plus adorable du jour, puisqu'elle vous fera mienne?
Et pendant un instant, on entendit courir sur le fil un bruit étouffé, comme des baisers frénétiques échangés par des fantômes.
Puis Rosanna,
oh, excusez-moi pour un instant, j'attends quelqu'un et on m'appelle.
Chapitre 7. La jeune fille entra dans un salon et s'assit près d'une fenêtre qui s'ouvrait sur un admirable panorama. À gauche, la vallée de Nuana, avec sa parure de fleurs tropicales et les panaches verdoyants de palmiers, ses collines aux bosquets d'orangers et de citronniers, et plus loin, ses précipices béants, où Kamehameha Ier conduisit ses ennemis à la mort. En face de la fenêtre, la ville étrange donne Lulu, et çà et là, des groupes d'indigènes chauffant leurs corps bronzés à la bienveillante chaleur. Enfin, à droite, dans le lointain, l'océan secouant au soleil sa blanche crinière. Rosanna, habillée de blanc, s'éventait d'une main fiévreuse lorsqu'un jeune canaque, affublé de débris d'une cravate bleue et des débris d'un chapeau de soie, passa sa tête par la porte entr'ouverte et annonça un visiteur.
« Faites entrer !» dit la jeune fille, se redressant d'un air digne.
Monsieur Sidney Algernon Burley fit son apparition, vêtu d'un costume blanc éblouissant, en toile d'Irlande de l'espèce la plus légère. Il s'avançait vivement, lorsqu'un regard de la jeune fille le cloua au sol.
« Je suis ici comme je l'ai promis, » dit-elle froidement. « J'ai cru à vos serments. » J'ai cédé à vos importunités et fixé le jour. Ce sera le 1er avril à 8 heures du matin. Et maintenant, retirez-vous.
Ô ma bien-aimée, si la reconnaissance de toute ma vie.
Plus un mot. Épargnez-moi le châtiment de votre présence et toute communication avec vous jusqu'au jour fixé.
Non, 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 point de supplication. Je veux qu'il en soit ainsi.
Quand il fut parti, elle se laissa tomber anéantie sur une chaise, car les longs tourments endurés avaient épuisé sa vigueur.
Oh, je l'ai échappé belle, murmura-t-elle soudain, et pensez que j'avais fini par croire que j'aimais ce monstre, ce traître, cet infâme trompeur. Oh, il se repentira de sa vilenie.
Chapitre 8.
Bon, il nous reste peu de choses à dire pour arriver à la conclusion de cette histoire. Le 2 avril suivant, l'Honolulu Advertiser contenait l'article qui suit. Mariage. Dans cette ville ont été mariés par téléphone hier matin à 8 heures par le révérend Nathan Hay, assisté par le révérend Nathaniel Dave de New York, Alonzo Fitzclarence, dit Sport, dans le Maine, et Miss Rosanna Hithelton de Portland, Oregon, États-Unis.
Mademoiselle Suzanne Howland, San Francisco, amie de l'épouse, était présente. Était présente également M. Sidney Algernon Barney, de San Francisco. Mais il ne resta pas jusqu'à la fin de la cérémonie. Le yacht du capitaine Hawthorne, superbement décoré, chauffait dans la rade et transporta l'heureuse mariée et ses amis pour son voyage de noces à Loalana, à Lelinkala. Les journaux de New York, du même jour, contenaient l'article suivant. Dans notre ville, hier, à 2h30 du matin, a été marié par téléphone et par le ministère du révérend Nathal Davis, assisté du révérend Nathan Hayes d'Honolulu, M. Alonzo Fitzclarence d'Eastport dans le Maine et Miss Rosanna Ethelton de Portland, Oregon. Étaient présents les parents et de nombreux amis de l'époux. Ils ont pris part à un somptueux souper qui se prolongea jusqu'au lever du soleil. Puis ils partirent pour visiter l'aquarium, l'état de santé de l'époux ne lui permettant pas un plus long voyage de noces. Vers la fin de cette mémorable journée, M. et Mme Fitzclarence s'étaient plongés dans la plus douce conversation téléphonique et se racontaient leur voyage de noces respectifs, quand tout à coup la jeune femme s'écria « Oh, chérie, j'oubliais, tout s'est accompli comme je l'avais dit. » « Vraiment ? Oui, c'est lui, Bartley, qui a reçu un beau poisson d'avril, et je lui ai déclaré hautement sa profonde stupéfaction. En dépit de la chaleur torride, il était là, sanglé dans son habit noir. Oh, j'aurais voulu que vous puissiez le voir, lorsque je lui ai glissé dans l'oreille la surprise que je lui ménageais. Sa méchanceté m'avait coûté bien des douleurs et bien des larmes. Mais tout cela se trouvait en un instant largement compensé. Ce sentiment de vengeance ne put rester dans mon cœur, aussi je le priais de rester. Je lui pardonnais tout. Il s'y refusa énergiquement et partit en jurant de se venger et de faire de notre vie une vie de malédiction. Mais cela est impossible, n'est-il pas vrai, mon Alonzo ?
Non, jamais, jamais, ma Rosanna.
À l'heure où j'écris ces lignes, tante Suzanne, la grand-mère, le jeune couple et les parents d'Eastport se portent à merveille, et leur bonheur à tous, selon toute apparence, sera solide et durable. Tante Suzanne ramena la jeune épouse des îles Sandwich et eut la grande joie d'assister à la rencontre ineffable d'un mari et d'une femme qui s'adoraient sans s'être jamais vus. Un mot encore sur Burnley, dont les viles machinations furent sur le point de séparer à jamais les cœurs et les existences de nos jeunes amis. En cherchant à se venger d'un pauvre diable d'ouvrier boiteux dont il pensait avoir à se plaindre, il tomba dans une chaudière d'huile bouillante. Inutile d'ajouter qu'il y laissa sa peau. Mark Twain.